Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, les 27 parlent immigration aujourd'hui au Conseil européen qui se tient à Bruxelles. Il sera question de l'instrumentalisation des migrants par la Biélorussie, de la lutte contre les trafics, du sauvetage et des contrôles aux frontières. Au début du mois, une enquête montrait des unités spéciales de police, cagoulées et sans uniforme, refoulées des demandeurs d'asile à coups de matraque. Des violences relevées notamment en Croatie et en Grèce. Ylva Johansson, la commissaire européenne, s'est dite extrêmement inquiète et elle déplore la désunion des Européens sur ce dossier de l'immigration. Refouler les migrants en mer, le gouvernement britannique aussi y songe, ce qui n'est pas du goût de son homologue français. Les précisions sur la politique migratoire de Londres avec Marie Billon.
La presse d'opinion titre ces derniers jours sur les passeurs qui multiplieraient les traversées avant qu'une nouvelle loi ne soit votée. Ce texte prévoit l'incarcération à vie pour les passeurs, mais aussi 4 ans de prison pour toute personne arrivant sur le sol britannique sans permission et l'ouverture de nouveaux centres pour les migrants au Royaume-Uni, voire, comme Londres le souhaiterait, sur un sol étranger. Les passeurs attisent les peurs en s'appuyant sur cette future loi pour pousser les candidats au départ à partir plus vite et à payer plus cher. C'est ce qu'a dit Lucy Morton du syndicat des agents des frontières à la BBC. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a aussi donné l'autorisation aux gardes-côtes de refouler des embarcations vers les eaux françaises, mais le syndicat ainsi que les associations d'aide aux migrants jugent cette pratique bien trop dangereuse pour la vie des migrants. C'est pour ça que le ministère penserait à garantir l'immunité des gardes-côtes en cas de décès de passagers lors de ces refoulements. Ce que le syndicat refuse, ces agents ne prennent pas plus de précautions parce qu'ils risquent d'être mis en cause, dit Lucy Morton. Et surtout, ce genre d'ajout dans la législation anglaise n'empêchera pas la France de tenter une action en justice si un migrant meurt dans les eaux françaises une fois refoulé. Car pour pouvoir repousser une embarcation vers la France, l'Hexagone doit avoir accepté au cas par cas et aller à la rencontre du bateau. Les autorités françaises disent sans équivoque que jamais elles n'accepteront ce genre de requête, car cette technique contrevient aux lois internationales qui donnent la priorité à la sécurité des passagers en toutes circonstances. Mais ce genre de discours fort contre les migrants et protecteur pour les agents des frontières plaît à un certain électorat du Parti conservateur.
Sept mille migrants ont rejoint l'Angleterre depuis le nord de la France cette année, deux fois plus que l'an dernier. Ils partent en mer depuis Calais, Dunkerque ou Boulogne. Mais la dégradation de la situation sur place pousse beaucoup de personnes à descendre plus au sud, sur la côte de Picardie. Les détails avec Lise Verbeek.
En baie de Somme, il est plus facile pour les exilés de se cacher pour tenter de traverser la Manche. Les dunes sont plus nombreuses et sur une plus grande surface que sur la côte, plus au nord. Le département se trouve également entre Lille, Paris et Calais, avec des autoroutes et d'importantes liaisons ferroviaires. Il y a aussi dans le secteur moins de contrôle des forces de sécurité. Mais la traversée à cet endroit est encore plus dangereuse qu'à Calais, car plus longue et avec de forts courants. L'année dernière, 2 tentatives ont été recensées. Depuis quelques mois, la préfecture en compte déjà une dizaine, avec notamment cette embarcation qui a dû être secourue et qui s'est échouée sur la plage d'une commune côtière. C'est un habitant qui a donné l'alerte, voyant ce canot pneumatique en difficulté. À son bord, une trentaine de migrants, des Vietnamiens et des Irakiens. Quelques jours plus tard, ce sont 37 personnes, des Irakiens, Iraniens, Érythréens, Afghans, qui ont été retrouvés. Et début octobre, 2 passeurs iraniens ont été arrêtés et condamnés à 3 mois de prison ferme. Si bien que la préfecture a décidé d'accentuer les opérations de contrôle sur le littoral Picard. Une brigade à cheval permanente basée à Saint-Valery-sur-Somme a été créée, avec 8 cavaliers gendarmes qui peuvent se déplacer là où les voitures ne vont pas, dans les dunes, les zones boisées. Le nombre de réservistes sera doublé, accompagné d'équipements comme des drones, des lunettes à vision nocturne, des bus pour transporter les exilés. La Grande-Bretagne finance le coût de ces opérations à hauteur de 180 000 euros. Des mesures saluées par les maires des communes environnantes, mais certains craignent dans les mois à venir une arrivée plus massive des exilés sur le littoral et peut-être la formation de camps, car à Calais, leurs conditions de vie sont de plus en plus difficiles et les contrôles policiers y sont quotidiens.
Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Il s'appelle Oscar Camps, il est secouriste. En 2015, il part à Lesbos, en Grèce, sac à dos, avec un collègue. Depuis, l'ONG qu'il a fondée, Open Arms, sauve les migrants à la dérive en Méditerranée, avec deux bateaux et des centaines de volontaires. Son premier sauvetage, Oscar Camps l'a fait à main nue, à la nage, sans même une bouée. C'est cette histoire assez incroyable que relate le film Méditerranéo. Et c'est Élise Gazangel qui nous en parle.
En 2015, après avoir vu les images du corps sans vie du petit Aylan, un secouriste de Badalone en banlieue de Barcelone décide de partir quelques jours pour aider les gardes-côtes grecs avec pour seul bagage son sac à dos. 6 ans plus tard, l'ONG qu'il a fondée, l'Open Arms, a sauvé des dizaines de milliers de vies en Méditerranée et continue d'œuvrer pour sauver les réfugiés à la dérive. L'histoire d'Oscar Camps est digne d'un film qui est désormais en salle en Espagne, Méditerranéo. Approché par le réalisateur il y a 4 ans, le sauveteur était pourtant réticent.
J'y ai beaucoup réfléchi parce que l'attention devrait être portée sur les personnes qui souffrent, qui meurent, dont les droits sont bafoués, pas sur les secouristes. Mais ensuite, en y pensant mieux, je me suis dit que si ça peut servir à rendre la situation visible, si le film est fait avec tact et respect, avec sensibilité, et qu'ils utilisent les personnes qui sont passées par cette traversée, les réfugiés eux-mêmes, alors ça peut être intéressant. Si está bien tratada.
Mille réfugiés ont en effet été les figurants de ce film. Pour le cinéaste catalan Marcel Barena, habitué des documentaires, il était impensable d'imaginer des acteurs pour les scènes de naufrage. Avec le soutien du psychiatre du camp de réfugiés de Moria, il a donc proposé aux migrants de jouer dans son film. Malgré les risques de traumatisme et à sa grande surprise, tous ont accepté et même participé activement au tournage, Barena explique.
Ils nous ont beaucoup aidés. Par exemple, dans une scène, je leur demandais de descendre du bateau et l'un d'entre eux m'a dit « Ça te dit qu'on le fasse comme ça plutôt ? Parce que moi, quand je suis descendu sur la plage, il y avait beaucoup de pierres et je me suis foulé la cheville. Alors on devrait descendre de cette manière-là. » Ou un autre m'a expliqué que lorsque tu nages avec 5 pulls en laine parce que c'est tout ce que tu as, c'est lourd et donc tu nages différemment. Ce sont eux qui nous ont aidés à mieux raconter leur propre histoire. C'était beau.
Lucas, Lucas, we are lifeguards. We come from Spain to help.
Avec tact, le film parvient à parler d'une histoire extraordinaire sans surdramatiser ou romantiser. De l'aveu d'Oscar Camps, les acteurs espagnols qui interprètent sa vie et celle de ses collègues reflètent l'expérience qu'ils ont vécue à l'origine de leur action, démunis, abasourdis par une réalité inconnue, réutilisant les bateaux des migrants qui ont réussi à traverser pour sauver ceux qui ont moins de chance. Un film que le cinéaste préfère qualifier d'humain plutôt que de politique.
C'est un film d'amour, d'aide, d'humanité. S'ils veulent le politiser, alors bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'à un moment dans le film, la fille d'Oscar lui dit qu'il fait de la politique depuis qu'il a mis un pied sur l'île de Lesbos. On pourrait me dire, à moi, que je fais de la politique depuis que j'ai décidé de faire ce film. Alors ok, je pense qu'il n'y a aucun doute sur mon point de vue sur ce problème, mais j'aimerais quand même que ce soit un film pour tous.
Film d'ouverture au Festival du film de Rome, mi-octobre, Méditerranéo fait forcément écho à l'actualité judiciaire du pays, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, sera jugé le 23 octobre pour avoir bloqué le bateau de l'Open Arms en août 2019 avec 150 personnes à bord. Oscar Camps.
Il y a déjà un avant et un après. Le simple fait qu'il soit jugé est sans précédent. Et il faut rappeler qu'on ne peut pas, de manière arbitraire, esquiver les conventions internationales et les droits de l'homme.
Mais l'activiste dénonce aujourd'hui une nouvelle manière plus vicieuse de les empêcher de réaliser leur mission.
La ministre actuelle ne ferme pas les ports, mais elle bloque les bateaux dans les ports et nous interdit de sortir en mer. Alors c'est pire, non ? Sans cruauté humaine, sans éclat, sans nous diffamer sur les réseaux, en silence. Le comportement du gouvernement actuel est pire que celui de Salvini.
En difficulté financière à cause des coûts juridiques du procès et de la pandémie, Open Arms espère que le film pourra rappeler aux donateurs que le drame des migrants est toujours d'actualité.
Quand tu vois le film, tu te rends compte qu'il s'agit de vies humaines, de gens qui ne devraient pas mourir. On dénombre 30 000 morts dans la Méditerranée. Et ce sont des morts inutiles. L'ONU dit que plus de 1000 morts par an, c'est un conflit armé. En Méditerranée, on a 3 conflits armés par an et tout le monde s'en fiche.
Hello.
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 Acclamé par la critique en Espagne, Mediterraneo sortira pour le moment en salle en Italie et en Grèce. De son côté, le bateau de l'Open Arms vient de rentrer à Badalone pour quelques jours et devrait repartir très bientôt au large des côtes libyennes pour sa 87e mission.
C'est donc demain, samedi 23 octobre, que Matteo Salvini comparaît devant le tribunal de Palerme en Sicile. L'ancien ministre italien devra répondre de l'accusation de séquestration de 147 migrants. Outre l'ONG Open Arms, dont le navire avait erré 3 semaines en mer en 2019, une vingtaine de parties civiles se sont constituées. Cécile Debarge les a rencontrées.
7 des 147 migrants qui se trouvaient à bord du navire de l'Open Arms, 11 associations, la plupart de défense des droits de l'homme ou des droits des migrants, et la mairie de Palerme. Voilà qui sont les 19 parties civiles constituées pour le procès de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini au tribunal de Palerme. Pour Luca Casarini, l'un des fondateurs de l'ONG italienne Mediterranea qui opère des sauvetages en mer depuis octobre 2018, se constituer partie civile était un devoir.
Je pense que c'est un devoir civique, au-delà du devoir juridique, d'être aux côtés de l'accusation, Open Arms dans ce cas précis, pour bien montrer qu'on ne parle pas juste d'une personne ou d'un épisode isolé, mais qu'il s'agit d'une très grave violation, d'un crime commis dans l'exercice de fonctions publiques qui appartiennent aux citoyens.
À bord du Mare Ionio, le navire affrété par Mediterranea, Luca Casarini a été le témoin direct de la politique des ports fermés de l'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi des décrets sécurité dont l'objectif était de fermer complètement les frontières italiennes aux migrants secourus.
Ces décrets ont été dictés par une volonté de modifier les conventions internationales. L'idée, en les violant, c'est d'instaurer un autre rapport aux droits humains, aux droits d'asile et aux droits de la mer. Or, c'est à l'intersection de ces 3 points, droits de l'homme, droits d'asile et droits de la mer, que se concentrent les conflits en mer avec les pouvoirs publics et qui, malheureusement, provoquent des dizaines de milliers de morts.
Derrière ce procès, ce qui est en jeu au-delà de l'Italie, c'est la question des politiques souverainistes de nombreux États européens, selon le cofondateur de Mediterranea.
Il y a un conflit permanent entre droit des États et droit international, car nous intervenons dans les eaux internationales. Ce qui se passe en ce moment en Méditerranée se déroule en eaux internationales. Les zones de recherche et de sauvetage délimitées par le droit maritime ne sont pas des zones de souveraineté nationale, mais des zones de responsabilité. C'est différent.
Cette année en a encore été la preuve. En matière de sauvetage de migrants en Méditerranée, les États se rejettent la responsabilité. Au cours des 6 premiers mois de l'année, 15 300 migrants interceptés en mer ont été renvoyés en Libye, soit 3 fois plus que l'année précédente. Malte n'intervient plus que rarement dans sa zone de sauvetage. L'Italie, elle, a multiplié les blocages administratifs des bateaux de secours et recherche en Méditerranée. Si les magistrats n'ont pas compétence pour répondre de ces débats politiques, le travail judiciaire permettra quand même de leur donner un espace de discussion, estime Luca Casarini.
C'est déjà énorme qu'il y ait un procès et que ça permette d'avoir un débat de fond sur ce qui se passe. Parce que le paradoxe, c'est que nous sommes témoins depuis des années de violations systématiques des droits humains par les gouvernements, et pas seulement par Matteo Salvini, mais de la part de tous les gouvernements européens.
C'est aussi pour cette dimension symbolique que la ville de Palerme a décidé de se constituer partie civile, explique le maire Leo Luca Orlando.
L'objectif est d'éviter que s'enracine une culture de l'intolérance qui mène ensuite à des formes de racisme et de violence. De ce point de vue, l'issue du procès est importante, bien sûr, mais elle ne change pas le postulat politique.
L'édile y tient. Chaque fois que les valeurs de la ville sont remises en cause, la municipalité de Palerme participe au procès en tant que partie civile.
Les avocats de la mairie se constituent partie civile à chaque fois qu'il y a des procès de mafia. Partie civile à chaque fois qu'il y a des actes de violence sur les femmes, quand il y a des phénomènes d'intolérance particulièrement odieux ou des discriminations particulièrement odieuses. Nous considérons que l'équipe municipale, au-delà de la gestion de la ville, doit avoir une vision qui est fondée sur le respect de la loi et des droits.
Rappeler les droits, ceux des migrants, ceux du secours en mer aussi, c'est ce qui revient chez de nombreuses parties civiles, bien plus que de vouloir en faire le procès d'un seul homme, l'ancien ministre de l'Intérieur.
Ce que je demande aux magistrats, c'est de vérifier s'il y a eu violation des lois, mais aussi de vérifier si la loi ne serait pas en opposition avec la Constitution. Qu'est-ce que j'en attends? Eh bien, que les juges affirment que les droits l'emporte sur le droit.
L'un des enjeux de ce procès sera aussi de comprendre si l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a agi et décidé seul, ou s'il n'a fait que suivre la politique du gouvernement. L'ancien chef du gouvernement Giuseppe Conte, ainsi que plusieurs autres ministres, seront entendus par les magistrats.
Musique.
Musique, c'est l'heure, avec Vincent Théval, comme tous les vendredis. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez un petit voyage dans le temps, dans une période assez à la mode en ce moment.
Oui, et que vous aimez beaucoup, je le sais. Je vous propose de nous replonger dans les années 80, à la faveur de la sortie récente d'une compilation qui présente tout un pan méconnu de la pop allemande entre 1983 et 1986. Le disque s'intitule Eins und zwei und drei und vier et c'est une plongée fascinante dans ce bouillon de culture où évoluaient les jeunes Allemands de l'Ouest, férus de contre-culture et d'expérimentation. C'est l'Allemagne des squats et des écoles d'art de Cologne, Düsseldorf, Hambourg ou Berlin, à une époque où se télescope le punk, la musique électronique ou le reggae. Une scène où on fait avec les moyens du bord, entre guitare et synthé bon marché, avec des résultats tour à tour déroutants, ambitieux et attachants, comme cette chanson signée Holger Hiller en 1983, musicien basé à Hambourg qui fut l'un des premiers en Europe à utiliser le sampler comme principal, voire unique instrument.
Holger Hiller dans Accent d'Europe aujourd'hui avec ce titre Johnny Du Lump sur la compile Eins und zwei und drei und vier. À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Écrivez-nous, abonnez-vous sur RFI.fr à la page podcast ou bien sûr sur votre plateforme préférée. À bientôt.